RFI, 22h à Paris, 21h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 2 milliards de livres, c'est l'accord de prêt que signent le Royaume-Uni et Kiev pour soutenir les capacités de défense ukrainienne. C'est dire si le président ukrainien est mieux reçu ce week-end à Londres qu'il ne l'a été hier à Washington. L'échange très tendu avec le président Trump à la Maison-Blanche a provoqué un large soutien européen à Volodymyr Zelensky. Dernier jour de la première phase de la trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. Mais les négociations pour la deuxième phase semblent au point mort. Les autorités israéliennes demandent une prolongation de la première phase. Et puis en Serbie, les manifestations contre la corruption continuent, cette fois à Nis, dans le sud-ouest du pays, où nous rejoindrons notre correspondant Laurent Rouy. Elles durent depuis le mois de novembre.
RFI.
Volodymyr Zelensky est à Londres. Avant le sommet de demain avec les dirigeants européens, le président ukrainien a rencontré le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a insisté sur l'absolue détermination du Royaume-Uni à soutenir Kiev dans sa guerre face à la Russie. Londres et Kiev signent d'ailleurs un accord de prêt de plus de 2 milliards de livres pour soutenir les capacités de défense ukrainienne. Un soutien de plus après l'échange très tendu d'hier avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Un échange qui a suscité de nombreuses manifestations de soutien des dirigeants européens au président ukrainien. Exemple avec la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui appelle l'Europe à s'engager plus fermement que jamais auprès de l'Ukraine.
Hier soir, nous l'avons bien compris, une nouvelle ère d'infamie a commencé. Une ère dans laquelle nous devons, plus que jamais, défendre l'ordre international fondé sur des règles et la primauté du droit contre la loi du plus fort. Sinon, aucun pays libre ayant un voisin plus puissant que lui ne pourra dormir tranquille. Pour nous, une chose est claire, nous soutenons une Ukraine souveraine et libre. L'Ukraine fait partie de l'Europe libre et démocratique. Ne nous trompons pas d'ennemis. Il est au Kremlin et non à Kiev, non à Bruxelles. Hier, nous l'avons vu, nous, Européens, ne devons pas pécher par naïveté. Nous devons défendre nos intérêts et nos valeurs, ainsi que notre sécurité pour nos citoyens en Europe.
La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Ce samedi, Volodymyr Zelensky est revenu sur l'échange musclé d'hier à Washington et il a insisté. Malgré un dialogue difficile, nous restons des partenaires stratégiques. Il s'est dit toujours disposé à signer l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Israël ne se laissera pas intimider par le Hamas. C'est ce qu'a martelé ce samedi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le mouvement islamiste palestinien a publié une nouvelle vidéo d'un groupe d'otages israéliens à Gaza. Avec ce message, seul un accord de cessez-le-feu les ramènera vivants. Le cessez-le-feu, la trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas, est toujours en cours, en tout cas sa première phase, mais elle se termine aujourd'hui. Et les négociations pour la deuxième n'ont toujours pas abouti. En fait, elles n'ont même pas commencé. Elles devaient permettre le retour de tous les otages israéliens et la fin de la guerre à Gaza. Mais les autorités israéliennes demandent une prolongation de la première phase et refusent de discuter du retrait de leurs troupes de l'enclave. L'armée israélienne aurait même présenté leur plan de gestion du territoire palestinien aux Nations Unies cette semaine. À Jérusalem, Oriane Verdier.
Ce plan a été présenté mercredi devant des représentants des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires. Certains d'entre eux en ont confié les détails au Guardian. Selon le quotidien britannique, Israël prévoit notamment de contrôler la distribution de l'aide via des pôles logistiques qui lui permettraient d'en choisir les bénéficiaires. La distribution serait assurée par des entreprises de sécurité privées, un projet discuté depuis le début de la guerre à Gaza et évoqué à nouveau il y a 5 mois après l'adoption par le Parlement israélien de 2 lois visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens. Le seul point d'entrée de l'aide humanitaire serait celui de Kerem Shalom sous contrôle israélien. Celui de Rafah entre l'Égypte et Gaza serait complètement fermé. Les organisations humanitaires et leur personnel devraient être validés en amont par Israël, ce qui rendrait impossible le travail de l'UNRWA sur place. C'est pourtant aujourd'hui le principal coordinateur de l'aide à la population gazaoui. Aujourd'hui, malgré la mise en place du cessez-le-feu, certains équipements n'entrent toujours pas en nombre suffisant dans l'enclave. 6 enfants sont morts de froid à Gaza cette semaine, selon l'UNRWA. Julien Boileau, Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
Et un retour de la guerre serait catastrophique, a alerté aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le PKK décrète un cessez-le-feu. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le groupe armé approuve l'appel de son chef historique, Abdullah Öcalan, lancé avant-hier, appelle à cesser les hostilités avec la Turquie et ouvrir des discussions pour se dissoudre. Réaction du président turc, Recep Tayyip Erdogan, la Turquie poursuivra ses opérations militaires contre les insurgés kurdes si les promesses ne sont pas tenues. Les quatre décennies de conflit entre le gouvernement et le groupe armé ont fait au moins 40 000 morts. En Serbie, nouvelle manifestation contre la corruption, cette fois à Niš, dans le sud-ouest du pays, où des milliers de manifestants ont convergé ce samedi. Les manifestations des étudiants contre la corruption ont commencé en novembre dernier, après l'effondrement de l'auvent d'une gare qui a fait 15 morts. Le bâtiment venait d'être rénové, et selon la population, il est le symbole de la corruption qui règne en Serbie. Correspondance Laurent Houy.
Le mouvement de protestation a fait tache d'huile, surtout grâce à la stratégie étudiante d'organiser un tour de Serbie. Toutes les deux semaines, il y a une grande manifestation dans une des principales villes du pays. Entre les deux, se tiennent toute une série de manifestations quotidiennes dans toutes les communes, même les plus petites. Ces grands rendez-vous bi-hebdomadaires donnent aux étudiants l'occasion de traverser des petits villages où les gens s'informent seulement avec les médias d'État sur lesquels le mouvement étudiant est brocardé par le régime. Ce contact avec la Serbie profonde est un baromètre de la popularité du mouvement. Et les étudiants sont accueillis comme des libérateurs. On leur offre le gîte, le couvert, on les soigne au cours de ces marches de plusieurs centaines de kilomètres parfois. À Niš, hier soir, une foule immense était venue accueillir les étudiants. Et aujourd'hui, le centre-ville de Niš est transformé en une zone piétonne, vitrine des critiques contre le régime du président Vučić. Car même si les étudiants se défendent de tout objectif politique, il est évident que dans le cortège, tout le monde souhaite la fin du régime d'Aleksandar Vučić. Laurent Rouy, Niš, RFI.
En France, à Boulogne-sur-Mer, 4 personnes ont été condamnées à des peines allant de 18 mois à 7 ans de prison, condamnées pour leur participation à un réseau de passeurs de migrants. Les prisons françaises, justement, elles n'ont jamais été aussi peuplées, près de 81 600 personnes au 1er février, selon le ministère de la Justice. On est même en pleine surpopulation carcérale, puisque sur ces 81 600 personnes, on ne compte qu'un peu plus de 62 300 places. À Rome, le pape François, toujours hospitalisé, a fait une crise respiratoire hier, suivie quand même d'une nuit tranquille selon le Vatican, qui parle d'un état stable. Un état qui reste quand même très préoccupant. Le pape est à l'hôpital depuis 2 semaines pour une pneumonie qui touche ses 2 poumons. En février 2020, les rues de la capitale indienne se transformaient en lieu de manifestations extrêmement violentes, avec de terribles affrontements religieux suite à une loi controversée sur la citoyenneté, des émeutes meurtrières à New Delhi. Mais la BBC révèle aujourd'hui que ces crimes n'ont toujours pas été résolus. Correspondance Léa Ojal.
Les personnes impliquées n'ont toujours pas été jugées. C'est ce que révèle une enquête publiée par la BBC en Inde. 80% des affaires liées à la violence pour lesquelles les tribunaux ont rendu des décisions se sont soldées par des acquittements ou des relaxes. Et dans 62 des 758 affaires portant sur des accusations de meurtre, il n'y a eu qu'une seule condamnation et 4 acquittements. En février 2020, de terribles affrontements ont touché le nord-est de la capitale. À l'origine, un désaccord autour de la loi controversée sur la citoyenneté. Elle facilite l'obtention de la nationalité indienne pour les hindous, sikhs, bouddhistes, jaïns et chrétiens ayant fui l'Afghanistan, le Bangladesh et le Pakistan. Les musulmans, quant à eux, en sont exclus. Derrière cette loi se cache en fait un combat rangé entre nationalistes hindous et musulmans qui a donné lieu à ces émeutes meurtrières. Au total, plus de 50 personnes musulmanes, pour la plupart, ont été tuées lors de ces émeutes. Selon un rapport publié en 2024, en Inde, les appels à la haine contre les musulmans ont augmenté de 74%. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Dans l'océan Indien, la Réunion, le bilan s'est alourdi. Le cyclone Garan aura fait 4 morts et au moins 5 blessés. L'alerte rouge a par contre été levée. Le nord et l'est de l'île ont été les plus touchés, entre autres par les pluies très fortes et les coulées de boue. L'ouest n'a pas non plus été épargné par les crues. Le président de la Chambre d'agriculture fait état de destruction et de dégâts sans précédent. Plus de 310 000 habitants sont toujours privés d'eau potable et 160 000 d'électricité. Et un peu moins de 1000 personnes sont encore réfugiées dans des centres d'hébergement. RFI 22h10 à Paris, 21h10 en temps universel. Prochain journal dans un peu moins d'1 heure.